Vous savez que le premier traitement du syndrome d'apnée du sommeil obstructif, c'est bien sûr la pression positive continue. On voit très bien sur cette diapositive que quand vous soufflez de l'air sous pression, vous réouvrez progressivement les voies aériennes, vous les élargissez, vous les stabilisez. Mais il y a 15% de refus initiaux, c'est-à-dire que dans les centres les plus habitués, il y a 15% des gens qui veulent pas de ce traitement, essentiellement pour des raisons d'image corporelle. On sait que dans les pays où ils sont le mieux suivis, il y a à peu près 20 à 30% qui abandonnent, ça veut dire qu'au moins 40% des gens ne sont pas traités. De plus, il y a des effets secondaires qu'on ne va pas détailler, et c'est pas un traitement curatif, c'est un traitement palliatif, c'est-à-dire si on ne fait pas la machine, eh ben on n'est plus traité pour ses apnées. Donc beaucoup de patients sont quand même demandeurs d'autres alternatives. Et on va voir qu'il y a des alternatives qui vont concerner des prises en charge médicales et des prises en charge chirurgicales. Donc je me suis pas mal basé sur les dernières recommandations européennes pour les traitements alternatifs de la PPC, puis j'ai rajouté des études plus récentes. Alors on va voir les interventions qu'on dit de lifestyle, c'est-à-dire la perte de poids, mais l'exercice. Vous verrez qu'il y a de plus en plus de données sur l'importance de l'exercice et des programmes de réhabilitation dans les apnées du sommeil. Est-ce qu'il y a encore une place pour opérer ces patients? À mon avis, elle est extrêmement minime, et si oui, quel sous-groupe? On va parler des oral appliances, c'est-à-dire des prothèses d'avancée mandibulaire, et puis on reviendra sur les traitements combinés et deux ou trois perspectives. Alors, premièrement, ce qui est dit dans les recommandations sur la perte de poids, c'est qu'elle est associée avec une amélioration de l'index apnée-hypopnée, de la qualité du sommeil et de la somnolence, et elle est donc recommandée, mais avec une démonstration de grade C, ce qui n'est pas extrêmement fort. Alors, la diapositive, résume toutes les études, hein. L'objet, c'est pas de détailler chaque ligne, mais vous voyez que quel que soit le type d'intervention, dans des études bien menées, soit avec des drogues pour faire maigrir, soit avec du régime, soit avec du régime plus de l'exercice, en gros, on arrive à baisser l'index de masse corporelle de 3 kg par mètre carré, ce qui est déjà beaucoup, et c'est associé avec une baisse du nombre d'événements respiratoires de 14, ce qui, dans les syndromes d'apnée du sommeil modéré, est extrêmement significatif. Alors, en clinique, il y a une chose qu'il faut bien comprendre et qui est très importante. Quand un patient vous demande « Est-ce que si je perds 10 kilos, je vais être guéri ?», on est incapable de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'il y a des patients qui ont, en plus, des anomalies maxillofaciales, qui sont, par exemple, avec une rétrusion mandibulaire, et bien ceux-là auront besoin de perdre beaucoup plus de poids pour être guéris que des patients pour lesquels la surcharge pondérale est l'explication préférentielle. Donc il faut réévaluer les patients au fur et à mesure de l'amaigrissement. Alors cette étude, c'est celle à laquelle Taha faisait allusion tout à l'heure, c'est une étude majeure dans le domaine, publiée dans New England l'année dernière, qui a comparé chez des patients obèses, vous voyez, à 38 kg par mètre carré, il y en a un tiers à qui je fais que de la perte de poids, un tiers à qui je fais que la pression positive et un tiers à qui je fais pression positive plus perte de poids. Et ce qui est spectaculaire et qui doit être bien compris par les pneumologues, parce que sinon on a du mal à être lisible dans le domaine, quand vous regardez la chute de pression artérielle, je vous ai dit avec la pression positive seule, ça baisse, mais c'est relativement peu. Quand vous faites pression positive et perte de poids, c'est majeur. Quand vous regardez le risque de diabète, la sensibilité à l'insuline, la PPC ne fait rien, alors que la perte de poids a un effet majeur. Sur les lipides, c'est exactement la même chose. La PPC seule ou sur la CRP, mais surtout sur les lipides, la PPC seule ne fait rien. PPC plus perte de poids est très efficace. Donc un patient obèse qui a des apnées, un pneumologue qui fait son travail de prise en charge globale ne peut pas lui proposer que la pression positive continue, c'est pas suffisant. Ce qui est très à la mode et qui est très, je sais pas, au Liban, si c'est en croissance très importante, mais en tout cas, partout dans le monde, ça l'est, c'est la chirurgie bariatrique. Et là aussi, je voudrais vous dire deux, trois choses sur la chirurgie bariatrique. Bon, premièrement, ça fait perdre du poids, ça je vous apprends pas grand-chose. Vous voyez que les gens passent en moyenne de 55 kg par mètre carré, ce qui est vraiment une obésité morbide, à 37. Et la plupart des patients améliorent leurs apnées, mais il faut bien savoir en pratique que beaucoup de patients gardent un certain nombre d'apnées du sommeil modérées résiduelles après chirurgie bariatrique, et il faut parfois continuer à les traiter. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'un certain nombre de chirurgies bariatriques, en particulier le bypass, sont ce qu'on appelle des chirurgies métaboliques. C'est-à-dire que ces chirurgies ne font pas que perdre du poids, elles ont énormément d'effets systémiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a baissé le seuil pour la chirurgie bariatrique parce qu'on guérit les diabétiques de type 2 avec la chirurgie bariatrique. Vous voyez, par exemple, cette étude qui est hyper spectaculaire. Vous voyez ces patients qui ont un diabète avec une hémoglobine glycée qui est très élevée au départ. Si vous leur faites une sleeve ou un bypass, vous voyez qu'il y a 3 points de chute de l'hémoglobine glycée et un pourcentage de patients très important qui n'ont plus de médicaments pour leur diabète. Donc je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était la remarque de tard. Le diagnostic apnée-hypopnée, je pense que bientôt, on va s'en ficher d'être à 15. Ce qui compte, c'est j'ai des apnées, j'ai des symptômes et j'ai des comorbidités. Et quand j'ai un certain nombre d'apnées du sommeil et que je suis obèse avec des comorbidités, l'avantage de la chirurgie bariatrique, c'est que non seulement ça traite mes apnées, mais ça va améliorer mes comorbidités, mon diabète de manière spectaculaire. Et c'est pour ça que je pense que chez le patient apnéique obèse, la chirurgie bariatrique, quand ils sont jeunes, a une vraie place. Vous voyez que ça améliore même la mortalité à long terme. Deuxième aspect, c'est l'activité physique. On devient obèse parce qu'il y a un déclin progressif de l'activité physique dans tous les pays depuis au moins 50 ans. Et ça, c'est une étude qu'on a fait chez des patients apnéiques avec un actimètre sur plusieurs jours. Et vous savez que les recommandations pour la bonne santé, ça ne va pas être notre cas aujourd'hui, c'est de faire 10 000 pas par jour. On mesure ça maintenant, vous savez, par votre iPhone, par vos téléphones, par des bracelets, etc. Et vous voyez que cette centaine de patients apnéiques, il y en a extrêmement peu qui font leurs 10 000 pas par jour. Or, on sait que la pression artérielle de ces patients le soir, elle n'est pas déterminée que par les apnées, mais elle est déterminée par leur activité physique dans la journée. C'est-à-dire, si je fais de l'activité physique dans la journée, même si j'ai des apnées, je ne vais pas être hypertendu. Et ça, c'est très peu pris en charge aujourd'hui. L'autre mécanisme très important, c'est une théorie que vous connaissez probablement, qui est la théorie du fluid shift, du mouvement liquidien. Quand dans la journée j'ai une accumulation de liquide dans mes jambes, hein, alors c'est des œdèmes, là c'est cliniquement évident, mais même si vous n'avez pas d'œdème et que vous restez assis comme nous toute la journée aujourd'hui, vous allez garder du liquide dans vos jambes. Le soir quand vous vous couchez, ce liquide il vient se mettre autour de vos voies aériennes et il augmente le nombre d'apnées et d'hypopnées de manière significative. Donc quand on fait de l'exercice, on sait, vous voyez, que le temps passé assis est corrélé à ces mouvements de fluide entre la journée et la nuit. Et quand vous allez faire de l'exercice, vous allez supprimer ces mouvements de fluide et vous allez améliorer vos apnées. Et aujourd'hui, c'est bien démontré par plusieurs études. Si vous faites de l'activité physique régulière, si vous mettez en place des programmes de réentraînement, vous améliorez la sévérité des apnées d'à peu près 20%. Donc ça doit réellement être intégré dans la prise en charge des patients apnéiques, l'activité physique. Ça, c'est des données chez l'animal que je vous montre. Elles ne sont pas encore publiées, mais je les trouve spectaculaires. Vous exposez nos fameuses souris de tout à l'heure à de l'hypoxie intermittente. Elles vont augmenter leur pression artérielle si elles sont sédentaires. Elles vont faire un infarctus de plus grande taille si elles sont sédentaires et que vous leur donnez de l'hypoxie intermittente. Si vous les entraînez, on sait faire pédaler les souris sur des tapis aujourd'hui. Eh bien, quand c'est des souris qui sont entraînées à l'effort, elles ne montrent pas leur pression artérielle même si elles ont de l'hypoxie intermittente et leur taille de l'infarctus n'est pas augmentée. Donc l'exercice, c'est vraiment important dans la prise en charge de nos patients apnéiques. Alors il faut inventer des nouvelles techniques de réentraînement. Vous voyez que nous on fait pédaler nos obèses sous ventilation non invasive. Je n'ai pas le temps de détailler, mais ça marche extrêmement bien pour augmenter la durée de l'effort. On leur fait de l'entraînement des muscles respiratoires. Et on est en train de développer des techniques d'électrostimulation du quadriceps parce qu'un obèse qui ne fait pas d'effort, il ne suffit pas de lui dire il faut faire 10 000 pas par jour, il faut lui donner des moyens pour augmenter ses capacités à l'effort. Les autres traitements alternatifs, le traitement positionnel. Vous savez qu'il y a des gens qui font des apnées que sur le dos Et on sait que s'il reste couché sur le côté, alors ça c'est affreux, c'est super moche. Hein. Moi je couche pas avec ça dans le dos, hein. Vous avez vu, ça ressemble pas à grand chose. Donc ce qui est nouveau, c'est que on a maintenant des traitements qui sont beaucoup plus esthétiques. Et vous voyez ce nouveau traitement qui s'appelle Night Balance, c'est tout petit et ça enregistre l'utilisation comme une PPC. C'est-à-dire vous allez voir les patients s'habituer. Au début, l'appareil vibre pour qu'il passe sur le côté. Ça coûte à peu près 500 €. Hein. Et puis ensuite, petit à petit, nuit après nuit, vous voyez que les gens s'habituent à dormir sur le côté et ils ont une bien meilleure tolérance. Ça, c'est une étude qui le compare à la balle de tennis. Bon, la balle de tennis, ça fait pas très professionnel. Les gens ont mal au dos et ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc, je pense que le traitement positionnel chez un certain nombre de patients, ça va se développer et être intéressant. C'est pas remboursé, mais bon, c'est intéressant. Traitement de l'obstruction nasale, porter des dilatateurs de narine, ça sert à rien. La chirurgie nasale, elle est très rarement efficace toute seule. Par contre, il y a des patients en période en ce moment, il y a énormément de pollen en France. Hein. Les gens ont des rhinites allergiques avec des obstructions nasales majeures. Eh bien là, ça aggrave les apnées chez les gens qui ont des apnées modérées. Et là, le traitement symptomatique peut avoir un intérêt. La chirurgie, on va aller quand même relativement vite dans la mesure où aujourd'hui, la chirurgie, il y a très peu de techniques qui marchent. C'est essentiellement peu efficace et dangereux. Donc, quand vous examinez un patient, vous voyez la plupart du temps qu'il a des tissus mous qui sont très augmentés. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on a, il y a la marque des dents sur la langue. Ça, c'est une macroglossie tout à fait typique. Et puis, ce patient-là, qui est rétrognate et qui a un overjet dentaire, c'est sûrement pas en lui coupant la luette que vous allez réouvrir ses voies aériennes supérieures. Hein. Donc, si on regarde les résultats, l'uvulopalato-pharyngoplastie qui consiste à couper la luette pour élargir, les études sont de qualité extrêmement médiocre. Et si on regarde des méta-analyses, vous voyez qu'il y a bien une réduction de l'index apnée-hypopnée d'à peu près 33%, mais en noir, c'est les index apnée-hypopnée après la chirurgie. Et vous voyez que dans la majorité des études, on reste à des index de plus de 20. Donc c'est une chirurgie qui est déconseillée chez les patients qui ont des apnées du sommeil sévères. Et pour moi, le problème essentiel, pour l'avoir rencontré très souvent en pratique, c'est quand, vous voyez ce patient, il a un voile très long là, mais il a aussi des anomalies maxillofaciales. On lui fait une uvulopalato-pharyngoplastie. Quand on va être obligé de lui mettre le masque de PPC parce qu'il n'est pas guéri, le voile ne protège plus le passage ici de l'air au lieu d'aller vers le pharynx. Il y a des fuites buccales majeures, il y a une très mauvaise tolérance de la PPC et ces gens, ils sont pratiquement impossibles à traiter par PPC derrière. Donc, en plus d'un échec chirurgical, on ne peut pas les traiter avec une PPC derrière. Le laser, c'est déconseillé. Toutes les sociétés savantes disent que la chirurgie du voile au laser, ça a été développé par les chirurgiens américains parce qu'on pouvait le faire en ambulatoire et que c'est extrêmement valorisé. Il ne faut pas le faire. Il y a des complications, ça n'a pas d'efficacité. L'avancée des tubercules géniens, on découpe un petit rectangle, on tire le géniogloss, on tourne le petit lambeau osseux à 90 degrés, ça permet d'avancer et on fixe le cartilage cricoïde sur le thyroïde. C'est censé ouvrir les voies aériennes ici à ce niveau-là. Hein. En fait, les taux de succès, c'est à peine 30%. On ne sait pas très bien les prédire. Donc, c'est une chirurgie qui est quand même d'une efficacité modérée. La chirurgie par glossectomie, le fait d'enlever une partie de la grosse langue, c'est une chirurgie qui est quand même risquée, avec 3 à 5 jours de trachéotomie, des possibles lésions du 12. C'est vraiment réservé à quelques macroglossies vraies, très peu de patients dans des mains extrêmement expérimentées. La seule chirurgie qui marche, en fait, c'est la chirurgie d'avancée mandibulaire. Hein. Donc, on fait une ostéotomie en arrière des arcades dentaires et on avance tout d'un centimètre ou d'un centimètre et demi. Alors ça, c'est efficace. Ça change le visage des gens. Hein, donc, il faut bien les prévenir à l'avance. Il y a des petits troubles de la sensibilité également qui sont un peu pénalisants. Mais vous voyez que là, on a vraiment une efficacité qui est très, très grande. Hein. Les réductions de 97%, un index moyen résiduel de 8. Nous, on fait une dizaine d'avancées bimaxillaires par an, mais uniquement chez des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas de comorbidité, qui ne sont pas obèses, ce n'est pas la population de l'apnéique standard. Et c'est vraiment un traitement de niche, mais qui est le seul traitement chirurgical efficace. Ça, c'est l'étude qu'on avait publiée en 2000, mais qui retrouve exactement les mêmes résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à très long terme, il y a une tendance à la récidive, parce que si les gens reprennent du poids, à un moment donné, ils se mettent à réavoir des hypopnées, mais s'ils restent au même point, c'est un traitement très stable. La seule vraie alternative de la PPC, c'est les prothèses d'avancée mandibulaire. Donc l'objectif, c'est d'avancer la mandibule vers l'avant, hein, de la propulser. Ça va réouvrir en arrière les voies aériennes. Il y a différents types d'orthèses, différents matériels. Il faut utiliser des orthèses qui sont faites sur mesure, hein, avec des bons professionnels de l'art dentaire. Et dans ces conditions-là, c'est un traitement qui est intéressant. Alors, l'efficacité est moins bonne que la pression positive, on va y revenir. Mais par contre, les patients ont une préférence pour ce traitement et ils l'utilisent plus longtemps dans la nuit. Donc, on corrige moins bien le nombre d'arrêts respiratoires, mais comme les gens le portent toute la nuit, ça compense probablement en termes d'efficacité. Le vrai problème, je m'excuse, les photos ne sont pas forcément très engageantes, mais c'est la qualité dentaire des patients. Vous savez que en France, au Liban, j'imagine que c'est la même chose, chez les hommes de 55 ans, ils ont déjà perdu un nombre de dents très considérable. Et donc, si on n'a pas des dents en super bon état, si on a une parodontose, si on a des soucis, eh bien, on ne peut pas utiliser d'orthèse d'avancée mandibulaire. Dans ce papier qu'on avait publié en 2002, ce qui ne nous rajeunit pas, on montrait que si vous preniez des patients au labo du sommeil, vous regardiez leurs dents, vous faisiez un panoramique dentaire, il y en avait déjà 30% qui n'avaient pas l'état dentaire approprié pour porter des orthèses d'avancée mandibulaire. Alors, par contre, les résultats sont quand même très bons. Vous voyez que là, quand on regarde stratifié pour la sévérité des apnées, il y a bien une réduction d'à peu près 15 événements à 20 événements par heure en moyenne dans les études liées aux orthèses. Et encore une fois, si on le compare à la pression positive, dans les études qui l'ont comparé à la pression positive, eh bien, on est un peu moins bien en termes d'amélioration d'événements respiratoires. Il y a à peu près 10 événements par heure d'écart. Mais par contre, si je mets ma PPC que 3 heures par nuit et que je fais 50 arrêts respiratoires par heure, eh bien, je vais passer plusieurs heures avec 50 arrêts respiratoires. Même si mon orthèse est un tout petit peu moins efficace, elle va me permettre de corriger finalement aussi bien. Donc, elles améliorent les apnées, réduisent la somnolence, améliorent la qualité de vie et sont recommandées chez les patients qui ont des apnées modérées à sévères. Les premières études sur la pression artérielle des 24 heures montrent que si votre orthèse corrige vos apnées, elle fait aussi bien que la PPC sur la pression artérielle. Alors, je finis avec deux perspectives thérapeutiques qui, à mon avis, vont prendre une place relativement limitée, mais c'est intéressant. La première chose, c'est les examens oropharyngés. Alors, vous savez qu'on peut, il y a maintenant deux équipes, c'est essentiellement des équipes brésiliennes, qui ont regardé si le fait de faire de la vocalisation, il y a des vidéos sur YouTube, si ça vous intéresse pour vos patients, sur les techniques qu'ils utilisent, mais également de venir coller sa langue contre le palais osseux, voilà, de la propulser, de la rétracter pendant plusieurs dizaines de minutes par jour. Ça, c'est un petit essai randomisé qui avait été publié en 2009. Vous voyez, les gens passaient en moyenne une vingtaine de pauses respiratoires à 10. Et puis, il y a un essai qui est sous presse, là, ça c'est tout frais, c'est de la semaine dernière, qui montre que chez des patients qui ronflent et qui ont des apnées modérées, même chose, l'index de ronflement est amélioré. Et puis, vous voyez qu'il y a quelques patients qui baissent très bien leur nombre d'événements respiratoires. Après, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que les patients vont accepter de faire 40 minutes de vocalise et d'entraînement tous les jours pendant toute leur vie? J'en suis pas certain. C'est intéressant sur le plan physiopathologique, mais voilà. Ensuite, il y a la stimulation du nerf hypoglosse. Alors ça, c'est un très gros business. Ça existe au Liban? C'est remboursé ou pas? Pour l'instant, non, c'est pas remboursé, mais il y a eu quelques cas de fait déjà ou pas? Pas à votre connaissance. Bon, il y a beaucoup de pays encore où il n'y a pas eu de cas de fait en dehors d'une étude ou deux, hein. Donc l'idée, elle est assez simple. Vous savez que le nerf hypoglosse, c'est le nerf qui va commander l'activité des muscles dilatateurs du pharynx. Donc on va le stimuler, on va relier ça à des électrodes qui détectent l'inspiration et on va voir ce qui se passe. Donc il y a deux études européennes avec des techniques différentes qui ont montré que oui, il y a un certain nombre de patients répondeurs qui améliorent beaucoup les choses à 3 mois et à 6 mois. Après, vous voyez qu'il y a quand même 30% des patients à qui vous avez implanté un stimulateur de l'hypoglosse et qui ne répondent pas. Ça, c'est des images en endoscopie qui sont jolies. Vous voyez le patient qui fait son collapsus sans stimulation. Et vous voyez qu'avec la stimulation, c'est beaucoup plus ouvert. On voit très bien la glotte. Vous voyez que la stimulation, elle est de ce côté-là. C'est pour ça que l'ouverture est asymétrique. Et c'est un des problèmes de cette technique, c'est d'avoir une stimulation qui est unilatérale. Même type de résultat. Après, il y a un papier qui est sorti dans New England qui est quand même très étonnant. Je ne vais pas dire des choses plus désagréables. En fait, je pense qu'il y avait une pression certaine de l'industrie pour cette publication. C'est une cohorte prospective. Ce n'est pas un essai randomisé qui, sur plus d'une centaine de patients, qui montre qu'effectivement, avec une stimulation de l'hypoglosse, je ne veux pas faire de la méthodologie d'essai clinique, puis je pense que vous n'arrivez pas à le lire, mais on part de 700 patients ici, et en fait, il faut faire une endoscopie du sommeil pour regarder le type d'obstruction qu'ont les patients, pour en sélectionner sur ces 724, 126 à la fin. Donc vous voyez qu'il y a déjà toute une difficulté de sélectionner les patients qui potentiellement vont être des bons répondeurs à la stimulation de l'hypoglosse. Et chez ces patients, qui sont des patients pas très obèses, vous voyez que l'index de masse corporelle moyen est à 28, il y a une amélioration. C'est pas des erreurs standards, c'est des SEM. En fait, il y a des gens qui répondent pas du tout. Donc c'est une cohorte qui n'était pas contrôlée. Il fallait pas avoir de collapsus concentrique. On n'a pas d'idée sur la safety, l'innocuité à long terme de cette technique. Il y a des pays où ça a commencé, c'est-à-dire aux États-Unis, où vous savez, les gens demandent vraiment des traitements définitifs pour leurs apnées, ça commence à être utilisé. C'est agréé par la FDA. En Suisse, il y a des patients qui commencent à être traités en finançant eux-mêmes leur implantation. Ça coûte 60 000 euros, un stimulateur de l'hypoglosse. Bon, franchement, nous, on est moyennement motivés pour l'instant sur cette démarche. Mais sachez que ça fait partie des choses qui sont réellement discutées à l'heure actuelle. Pour conclure, puis pour la discussion, j'ai quelques autres choses si vous avez des questions. Donc, la pression positive reste très clairement le traitement de choix pour les apnées du sommeil sévère. C'est la seule qui a des effets vraiment démontrés dans des études très bien conduites sur la somnolence et les aspects cardiovasculaires dont on a parlé avant. Bien qu'elle soit plus efficace, les systèmes d'avancée mandibulaire sont vraiment des traitements appropriés pour ceux qui ont l'état dentaire correct, qui sont intolérants à la PPC, et pour les SAS modérés, moi je l'utilise très largement, c'est un très bon traitement. La place de la chirurgie, elle est vraiment très limitée, à l'exception de la chirurgie bariatrique. Le patient obèse qui est jeune avec un SAS sévère et diabétique, je pense que ça se discute là pour le coup très. Vous savez qu'aux États-Unis, ils commencent à faire de la chirurgie bariatrique aux enfants. C'est un peu terrible, mais c'est compte tenu des comorbidités. Je pense qu'il faut vraiment inclure des programmes d'exercice dans la prise en charge des patients et puis pas être des pneumologues qui s'intéressent qu'à l'aspect PPC. Et puis on verra ce que vont devenir les techniques de stimulation du nerf hypoglosse. Merci beaucoup.